Bonjour, Nathalie Debroc. Ces femmes qui ont fait la Bretagne. Elles pensaient refaire l'histoire avec un grand H, mais c'est la petite histoire qui va la rattraper. La Duchesse de Berry. Bon, je vous l'accorde, normalement, la Duchesse de Berry ne devrait pas figurer dans cette liste des femmes qui ont fait la Bretagne, si on s'en tient à l'un des critères de base, être née en Bretagne. Mais d'abord, elle ne sera pas la seule exception, car son destin, comme celui des autres exceptions à venir, lui a fait croiser notre région. Voilà pourquoi elle trouve toute sa place dans cette série. Et puis, elle me plaît, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Elle est fantasque et elle est libre. Elle est née en Italie, à Caserte, en 1798. C'est la nièce de Marie-Antoinette, un détail qui a son importance car il lui fera vouer une haine farouche à tout ce qui touche de près ou de loin à la Révolution française. L'année même de sa naissance, elle n'a pas 2 mois. Sa famille, qui régnait sur le petit royaume de Naples, est contrainte à l'exil. Napoléon veut mettre son frère Joseph sur ce trône d'opérette. Tout le monde s'embarque par une tempête épouvantable sur un navire britannique dirigé par l'amiral Nelson en personne, direction Palerme. À 3 ans, Marie-Caroline perd sa mère. Son père se remarie dans la foulée à l'infante Marie-Isabelle d'Espagne. S'ensuit une enfance très libre, de sauvageonne, au milieu d'une bonne douzaine de demi-frères et de demi-sœurs, sans trop de soucis du protocole. La jolie laide, comme elle a été décrite, possède surtout un charme véritable, une âme d'artiste, une énergie infatigable et constante, une gentillesse désarmante, un naturel à toute épreuve qui ne s'encombre pas d'afféterie et un délicieux accent italien. C'est cette jeune fille de 18 ans, menue, elle mesure 1m50, qui est destinée à épouser, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'héritier du trône de France, Charles Ferdinand, duc de Berry. Celui-ci est le fils du futur Charles X. C'est un mariage arrangé, certes, lui a 20 ans de plus qu'elle, mais l'entente entre les deux époux est bien réelle. Ces deux-là s'aiment sincèrement. Il faut dire que Marie-Caroline sait comme personne donner du piquant à la vie. Au diable le protocole, de toute façon, il n'a jamais été sa tasse de thé. En avant, incognito sur les bus à Impérial ou dans les boutiques du Faubourg Saint-Germain où elle entraîne son mari pour faire des emplettes. Artiste, elle est aussi une grande mécène qui commande de la musique au compositeur français Boieldieu. Il lui dédiera son opéra, La Dame Blanche. Elle fait aussi travailler les industries de la soie, entre autres, et lance la mode des bains de mer. Les deux incarnent l'espoir d'un avenir plutôt rose. On dirait de Marie-Caroline aujourd'hui qu'elle est l'une des premières princesses people. Jusqu'à un soir de février 1820. Le 14, très précisément. La duchesse est enceinte, détail qui va avoir son importance. La voilà à l'opéra, qui se trouvait à l'époque rue Pelletier. Le duc de Berry vient de lui dire qu'il la retrouverait un peu plus tard et il s'éloigne. Il n'a pas fait 2 pas qu'un Versaillais du nom de Louvel le frappe à mort d'un poinçon. Le duc va agoniser pendant la nuit entière devant sa famille réunie pour s'éteindre au petit matin. Je vous disais tout à l'heure que Marie-Caroline était enceinte. On peut imaginer la pression de ces derniers mois de grossesse, car cet enfant, si c'est un garçon, il peut prétendre au trône de France. Le 29 septembre, la veuve du duc de Berry donne naissance à un enfant posthume. C'est un garçon, Henri, duc de Bordeaux. 4 ans plus tard, Louis XVIII meurt, lui succède Charles X, son frère. Marie-Caroline a désormais un statut à part. Elle est la mère de l'héritier, cet héritier de la Providence, comme on le surnomme. Elle a obtenu qu'on l'appelle Madame, tout va bien. L'avenir paraît au beau fixe, son fils, issu des Bourbons, sera roi. Nous sommes maintenant en 1830. Vont commencer les années difficiles. Arrive la Révolution, celle des Trois Glorieuses. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, le roi Charles X est contraint à l'exil. en Angleterre. Marie-Caroline le suit avec l'idée que l'heure de son fils sonnera un jour. En attendant, changement de régime, c'est Louis-Philippe et les Orléanistes qui prêtent serment. Passe quelques années, Marie-Caroline se rend en Italie, elle commence sa campagne pour mettre son fils sur le trône et rétablir les légitimistes. Son idée, c'est faire se soulever dans un premier temps la Provence, puis la Vendée, pour asseoir ce nouvel espoir. Les intrigues vont bon train. En avril 1832, Marie-Caroline débarque à Marseille. Marseille qui est censée la suivre. On attend 2000 hommes, arrive à peine une petite soixantaine. La première tentative a échoué. Mais Marie-Caroline n'est pas du genre à renoncer. Elle s'obstine. Elle est persuadée que la Vendée lui sera fidèle. Le souvenir de la chouannerie sans doute. Mais cette fois aussi, l'insurrection vendéenne est un échec. Alors, après une errance de 6 mois, sous l'apparence d'une paysanne, la voilà en Bretagne. On la recherche, pas pour la bonne cause, de ce côté-là, c'en est terminé, mais pour l'arrêter. Et dans ce domaine, la police de Louis-Philippe est très efficace. Elle a trouvé refuge à Nantes, rue du Château, à l'étage de l'hôtel particulier des Demoiselles du Guigny. Mais elle est dénoncée. Descendre de gendarmes, personne. La belle semble s'être volatilisée. Les gendarmes continuent leur faction sur place et la nuit, pour se réchauffer, font un feu dans la cheminée. Derrière la plaque de fonte, soudain, une petite voix s'élève. « Ôtez le feu !» La duchesse de Berry, pas loin de l'asphyxie, elle a passé 16 heures dans cette cachette, est contrainte de se rendre et emmener Manu Militari au château, l'ancienne résidence des ducs de Bretagne qui avait déjà servi de prison à l'illustre intendant de Louis XIV, Nicolas Fouquet. C'est la fin des espoirs de Marie-Caroline. Son fils ne sera jamais roi et elle, jamais régente.